rire préféré animé à Boulevard. Marceau le midi.
C'est un 22 degrés qu'on a sur Québec. Température idéale avec Minex. C'est une température ressentie de 23. Ce soir, ciel dégagé, minimum de 12. Pas de pluie de prévu. Bonne nouvelle. Mercredi, demain, ce sera ensoleillé avec un maximum de 27 degrés. Jeudi, ensoleillé, maximum de 28. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 28. Et si je regarde pour ce qui est du week-end, c'est souvent ce qui nous intéresse. Si on n'est pas en congé, comme toutes les autres, eh bien, ce week-end, deux belles journées, alternance de soleil-nuage pour samedi. Dimanche, alternance de soleil-nuage. Peut-être un peu de pluie en soirée samedi, mais ça risque de changer. On va se le souhaiter, soyez positifs. Maximum de 27 pour samedi et dimanche, maximum de 30 degrés. Se passe-tu quelque chose, Pascal?
Non, pas du tout. J'avais juste de la misère avec mon micro. Ouais. Pardonnez-moi, okay. Si vous avez entendu, ce n'était que cela.
Ouais. Midi 39, on s'en va retrouver notre ami Victor Henriquez, qui est analyste politique. Salut, Victor!
Salut Yannick, salut Pascal.
J'aime ça de jaser parce que la bonne nouvelle, c'est que quand on jase, c'est que il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Entre autres, l'élection d'Arthabaska où on dirait que c'est un enjeu référendaire. Là. On dirait que ça fait tellement jaser pour une élection qui est partielle. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est-tu en raison des craintes qu'on avait eues dans Jean Talon puis qu'on s'imagine que François Legault va encore manger une mornif sur le nez avec Arthabaska?
C'est probablement parce que c'est ce qui risque d'arriver aussi, Yannick. Hein? Puis Arthabaska, c'est intéressant parce que d'abord, les élections estivales, c'est toujours le fun. Parce qu'on a plus le temps aussi d'en parler. Je pense qu'il y a un peu cet aspect-là. Il y a aussi le fait qu'Arthabaska, c'est une élection où est-ce qu'il y a un chef qui est candidat. Le chef du Parti conservateur du Québec qui cherche à se faire élire. C'est sa dernière opportunité de se faire élire avant l'élection générale de 2026. Puis c'est important parce que s'il est élu lundi, ça lui permettra d'être au débat des chefs, ça lui permettra d'avoir plus de visibilité pendant l'année, ce qui amène vraiment le Parti conservateur à un autre niveau, au sein dans les votes, et qui, selon tous les partis, d'une certaine façon, mériterait sa place dans un système parlementaire qui soit vraiment représentatif. Donc, ça là-dessus, c'est ce qu'on a entendu. C'est cette occasion-ci, Arthabaska. Puis, pour la CAQ, c'est extrêmement important parce qu'on veut limiter les dégâts, littéralement, dans ce comté-là. Au début de l'élection, on parlait de chiffres anémiques. Là, on était vraiment à 3% du côté de la CAQ. On va essayer de pas finir quatrième derrière les libéraux de ce côté, de ce côté-là. Et ensuite, ben, il faudra préparer ce fameux remaniement qui a été annoncé d'avance par François Legault, mais surtout faire oublier le résultat de l'élection. Parce qu'une chose est sûre, c'est que pour le gouvernement, ce sera une mauvaise élection partielle.
Parce qu'Éric Duhaime est toujours à Arthabaska. Là. Je jase régulièrement avec des membres de son équipe. Il est toujours dans le secteur. Des fois, il est à Montréal, des fois, il est à Québec, mais très souvent, il est dans Arthabaska depuis plusieurs semaines, si ce n'est pas quelques mois. Paul Saint-Pierre Plamondon a été souvent vu dans Arthabaska. François Legault, Arthabaska, il n'est pas souvent là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne prend pas ça plus au sérieux que ça? Je veux dire, son candidat, bon, c'est pas le gars le plus connu, mais n'en demeure pas moins que, tu sais, moi, je veux pas en manger d'envie des mornifs. T'as-tu l'impression qu'il a déjà laissé tomber ce comté-là en sachant très bien qu'il n'y avait aucune chance?
Ah, tout à fait. Moi, je suis convaincu que dans le calcul, justement, et dans le calcul de la date, ça fait partie de la chose. Je veux dire, on n'en va pas le premier ministre dans un comté perdant. Ça, c'est une règle d'or parce qu'on veut pas non plus l'amener dans un contexte qui lui est pas favorable. On veut pas avoir des mauvaises images non plus. Puis, on veut pas le mettre dans une position difficile. C'est très mauvais pour la perception grand public national d'un premier ministre que de l'envoyer dans un comté où c'est perdu complètement. Je m'attends quand même à ce que, il soit présent auprès de son candidat d'une façon ou d'une autre. Et là, j'ai hâte de voir ça va être quoi d'ici lundi prochain. Mais c'est sûr que pour la CAQ, ce comté-là, quand on voyait les chiffres, c'était perdu. C'est pour ça qu'on le met au milieu de l'été aussi, parce qu'à partir de là, ce qu'on va essayer de créer, c'est de changer le narratif immédiatement après l'élection, que ce soit le PQ ou le Éric Duhaime qui est élu. Là, on va s'en aller justement avec un caucus, un remaniement ministériel, une rentrée parlementaire. On va essayer de changer l'histoire qui va se raconter et de faire oublier l'élection partielle dans Arthabaska parce que tout le monde sait que ça va être perdu.
Mais on est-tu vraiment capable de changer un contexte rendu là avec les frasques de la CAQ, avec juste... moi, je me rappelle aussi Louis Hébert. Là, on s'en va dans Arthabaska. Si ça arrive encore, on est capable de changer la perception?
Ça va être très, 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 très difficile pour la CAQ. Et ça, là-dessus, les gens de Coalition Avenir Québec, j'en suis sûr qu'ils en sont très conscients. Hein. Les gens sont lucides. Je veux dire, si nous, on le voit, dites-vous qu'eux autres voient la même chose. Maintenant, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que M. Legault a décidé de rester en poste. Il aurait pu décider, à un an d'une élection, de quitter. Il l'a dit maintes et maintes fois, il veut rester, il va aller jusqu'au bout. Parfait, c'est sa décision. C'est d'ailleurs son droit de rester en poste. Et ça aussi, ça va obliger son parti à travailler le changement autour du premier ministre. Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a clairement au Québec une volonté d'un certain changement. On l'a déjà vu dans les chiffres au fédéral, par exemple, ça peut bouger, mais lorsque les gens veulent changer, c'est la première étape pour un changement de gouvernement. Une fois qu'ils veulent changer, après ça, ils décident qu'est-ce qu'ils veulent comme changement, et c'est là où les autres partis ont une carte à jouer. Dans le cas ici de François Legault, ce qu'on va essayer, c'est d'incarner le changement, d'incarner le renouvellement par l'intérieur. Donc, c'est là où le rôle d'un remaniement ministériel, par exemple, va être très important. C'est là aussi où la rencontre du caucus qui aura lieu le 14 août va être importante. C'est qu'on va venir non seulement changer les visages, mais on va essayer de changer le discours, on va essayer de changer l'histoire, on va essayer de tourner les Québécois vers quelque chose, vers un projet de société qui soit nouveau, pour que les gens disent « Ah, OK, je veux continuer avec ça, même si j'aimerais voir autre chose ». Cette autre chose-là va rester les gens qui sont en place et le gouvernement Legault. C'est là où est-ce que c'est extrêmement difficile et on a vu ça très rarement dans l'histoire politique. C'est pour ça qu'on parle souvent du fait qu'au Canada et au Québec, on fait deux mandats en majorité du temps, rarement trois ou quatre, parce qu'après un certain temps, les gens veulent changer et c'est très, très dur d'incarner le changement dans la continuité.
Ouais, depuis 2018, on n'a jamais vu un caucus de la part de la CAQ qui se produit en plein été, là, donc le 14 août prochain. On parle d'une démarche qui est complètement inhabituelle. Du côté des porte-parole de la CAQ, on dit non, c'est juste pour se jaser puis préparer la rentrée. Mais ça sent la panique actuellement. Puis il y a beaucoup d'employés aussi de la Coalition Avenir Québec qui travaillent au gouvernement présentement qui commencent à regarder du côté du Parti québécois au niveau des communications. « Ah, t'aurais pas une job, mettons, un chef de cabinet là, aux prochaines élections. »
Il y en a qui ont quitté le bateau dans les mois derniers.
Exactement.
Ils voyaient tout venir.
La confiance semble pas être dans la bâtisse, ouais. Là, à son comble, effectivement.
Ah, puis il faut se rappeler que c'est quand même la coalition, c'est des gens qui étaient dans d'autres partis aussi beaucoup avant, qui ont quitté pour aller gouverner d'une certaine façon. C'est ce que beaucoup disaient, notamment chez les péquistes. Ils disaient, on s'en va à la Coalition Avenir Québec pour gouverner, parce qu'on veut être concentré sur autre chose que le prochain référendum pendant un certain temps. Mais c'est des gens qui avaient des convictions d'un côté ou de l'autre, même des anciens libéraux aussi, qui sont partis à la Coalition Avenir Québec. Donc le problème, quand cette coalition-là baisse, c'est que les gens ont d'autres partis qui sont des partis plus naturels où est-ce qu'ils pourraient retourner. La base naturelle de la Coalition Avenir Québec, c'est l'ancienne ADQ. Et c'est là où l'élection d'Éric Duhaime devient extrêmement intéressante. Parce que si Éric Duhaime est élu, il va avoir la visibilité et le terreau nécessaire pour aller chercher ce fameux vote adéquiste, pour aller chercher un vote de droite, pour aller chercher, par exemple, un vote dans la région de Québec où est-ce que vous êtes, parce qu'on sait que le vote de droite, il est fort, où est-ce que les gens ont ce genre de conviction-là. Les conservateurs fédéraux font des gains dans votre région à cause de ça. Et là, ça va devenir un terreau très fertile parce que la base adéquiste-caquiste va se chercher un autre endroit où aller. Et c'est là où Éric Duhaime peut faire des gains extrêmement importants qui peuvent aussi être catastrophiques pour François Legault. Donc, en ce moment, il y a du mouvement autour du PM. Il y a des gens qui vont un peu partout. En même temps, moi, ce que je vois avec le recul du 14 août, c'est que dans une situation d'urgence, on agit différemment. Alors, je trouve ça intéressant, je trouve que c'est un bon message à passer que de dire, on va se réunir tout de suite au 14 août. On n'attendra pas avant septembre avant de se mettre au travail. On va se mettre au travail de façon immédiate parce qu'on est conscient de la gravité de la situation, puis on veut faire ce qu'il faut pour se relever. Tant mieux qu'il le fasse. On se mentira pas que trois jours après une élection partielle qui risque d'être perdue par la CAQ, ça va faire du bien aux députés de se retrouver ensemble et de s'en parler.
C'est pas un peu hypocrite, Victor, parce qu'on s'attend à ça d'un premier ministre à longueur de mandat.
De faire les caucus au mois d'août. D'habitude, on fait les caucus au mois de septembre parce que le mois d'août est réservé au comté. Souvent, les députés vont revenir de vacances, par exemple,
non, mais
au début du mois d'août.
À se réunir, à gérer en situation de crise, même s'il n'y a pas vraiment de crise, parce qu'on trouve que faut immédiatement avoir les meilleures solutions, immédiatement gérer la province comme étant un bon gestionnaire, puis toujours être près des électeurs. C'est pas un peu hypocrite de trouver que là, c'est le temps parce qu'on est dans l'eau chaude?
Arrêtez, là, c'est le temps de réunir le caucus. Parce que la réalité, c'est que le gouvernement est tout le temps actif. Ce que le caucus va venir faire, c'est que là, il faut ramener... La première chose qu'il faut ramener dans une situation comme celle-là, c'est de se réunir en famille. C'est ce que fait un caucus. de réunir la famille et de dire, OK, dans la prochaine année, qu'est-ce qu'on fait comme changement? Qu'est-ce qu'on va amener comme nouveau discours pour nous permettre de nous relever, puis de donner à l'électorat l'envie de voter pour nous? Cette discussion-là, il faut qu'il la fasse. D'habitude, les caucus se font en septembre parce qu'on prépare juste la rentrée parlementaire. Dans ce cas-ci, c'est un caucus parce qu'on va préparer l'année préélectorale. Le message qui passe, c'est on va le faire plus tôt que tard parce qu'on a besoin de travailler beaucoup. Je pense que c'est le bon message parce que c'est vrai que le besoin est là. Mais je pense pas que ce soit hypocrite de le faire parce que tout le monde est conscient que François Legault a un défi qui est titanesque devant lui lorsqu'on regarde les chiffres. Parce que nous convaincre qu'il représente le changement, ça va être compliqué. Donc, je pense que c'est tout à fait correct que le caucus se réunisse plus tôt.
Puis je regarde les projections là, sur Québec 125. Ça joue vraiment entre le Parti québécois puis le Parti conservateur du Québec. Ils sont à 37 % les deux. Tandis que le PLQ tire de la patte. PLQ, je pense qu'il n'y a même pas de représentant. Il y en a toujours un. En tout cas, s'il y en a un, je n'ai pas entendu parler. Ils sont à 9 % La coalition Avenir Québec était à 3% selon un sondage Segma qui avait été commandé par le Parti québécois. En début de campagne, il était à 3%. Là, il serait à 9% pour ce qui est de la coalition Avenir Québec dans Arthabasca. Québec solidaire, bon, sont autour de 6% à peu près. Là. Donc, ça se joue vraiment entre PQ et Parti conservateur du Québec.
Puis on dit que là, le vote par anticipation est extrêmement populaire. Là.
Et ça, c'est très démonstratif, hein, parce qu'on avait dit une élection estivale, c'est comme la meilleure façon de faire que les gens n'aient pas voté. Clairement, c'est pas vrai. Les gens ont décidé d'y aller, et ça, c'est souvent synonyme de changement aussi. Lorsque les gens ont une motivation pour aller voter. Je vais être très honnête avec vous, moi, si j'avais un petit 2 à Paris ici, je pense que ce vote par anticipation fort favorise beaucoup Éric Duhaime, qui a travaillé très fort sur le terrain, qui a une très bonne machine de mobilisation. Alors, préparez-vous lundi, puis ça se peut qu'on ait un nouveau parti représenté à l'Assemblée nationale.
Bien, assurément, dans Arthabasca, il faut dire qu'il y a deux candidats vedettes, là, Alex Boissonneau au PQ, Éric Duhaime au Parti conservateur du Québec. Les deux ont fait beaucoup parler d'eux dans l'eau chaude ou dans l'eau froide, mais pour le reste, Kevin Brasseur de la CAQ, Chantal Marchand du PLQ et Pascal Fortin de Québec solidaire, ça fait un peu moins jaser.
Non, c'est ça.
Dans d'autres circonstances, on aurait peut-être... c'est des candidatures locales intéressantes quand même. Hein? Mm-hmm. C'est juste que dans d'autres circonstances, on en aurait plus entendu parler. Mais à ce moment-ci, on a quand même d'abord le PQ qui est très fort dans les sondages nationaux, donc qui arrive à attirer un candidat d'importance, même si c'est un comté qui, à la dernière élection, il était très bas. Et Éric Duhaime qui a décidé de faire... Selon moi, d'ailleurs, le move qu'Éric Duhaime aurait dû faire dès le début de sa carrière politique, ce qui est de concentrer les énergies d'un parti sur un seul comté. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'Amir Kadir s'était fait élire dans Mercier et que ça avait amené Québec solidaire à être présent à l'Assemblée nationale. C'est reconnu que ces partiels permettent justement au parti de faire élire des chefs dans cette position-là et de naître aussi. C'est pas nouveau là, comme méthode parce que justement toutes les énergies d'un seul parti sont à un seul comté plutôt que d'être réparties partout dans la province.
Okay. Donc ta prédiction, Victor Henriquez, ce serait que Éric Duhaime pourrait faire son arrivée à l'Assemblée nationale avec ces élections-là, c'est ça?
Moi, je vais me mouiller, là. D'habitude, les analystes, on nous dit de ne pas trop le faire. Je vais me mouiller. Avoir les chiffres du BVA et du vote par anticipation, je pense qu'Éric Duhaime a de fortes chances d'être élu.
OK. Parce que moi, on me dit que le PQ est en panique, là. Il rappelle des gens qui ont déjà été votés puis qui ont déjà rencontré pour être sûr et certain qu'ils ont été votés. Donc, je sais pas. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait 500 000 Québécois qui soient représentés à l'Assemblée nationale. Puis, si ça passe par Éric Duhaime, ce sera ça. Sinon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais je constate qu'il y a une vague hallucinante de haine envers Éric Duhaime dans le comté d'Arthabasca, ainsi que la coalition Avenir Québec. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand je te parlais d'enjeux référendaires, comme si la vie, le sort de l'humanité dépendait d'Arthabasca, mais il y a beaucoup de gens qui sont fâchés après la coalition Avenir Québec, puis qui sont fâchés après Éric Duhaime, puis je m'explique mal pourquoi. Éric Duhaime, c'est pas Satan, là.
Non, c'est pas Satan. Bon, on va s'entendre, là. On pourra avoir ce débat-là, Yannick, ça va nous prendre un certain temps, mais faut quand même dire que dans la façon de faire les choses, des fois, Éric Duhaime et les conservateurs ont tourné quelques coins ronds. En même temps, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites à leur sujet où les gens ont créé une émotion très négative sans nécessairement les connaître. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant aussi de voir Éric Duhaime se réélire lundi prochain, c'est que si c'est le cas, il pourra vraiment être plus connu de la part de la population pour ce qu'il va dire, plutôt que la perception qu'on a de lui à travers quelques tweets des réseaux sociaux et des choses comme ça. C'est souvent trop ce qu'on entend de la part d'Éric Duhaime et du Parti conservateur. On les connaît moins. L'Assemblée nationale t'offre justement cet espace où est-ce que tu peux avoir de la visibilité, où est-ce que ton discours est plus connu, où est-ce que tes idées peuvent se propager. Et moi, je trouve ça intéressant de l'avoir à cet endroit-là. Maintenant, c'est aux gens d'Arthabasca de décider. Ils ont cette possibilité-là. J'ai hâte de voir ça va être quoi. Mais c'est sûr que si c'est le cas, ça va amener vraiment beaucoup d'intérêt sur les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Les périodes de questions vont être excitantes. Et ça va être dur pour François Legault. Parce qu'imaginez, là, en face de lui, il va avoir... Mettons qu'Éric Duhaime est élu. Lui, il va avoir Éric Duhaime, Paul Saint-Pierre Plamondon, Marois Risky et Rouba Gazal pour l'attaquer. L'automne et le printemps vont être difficiles pour tous.
Ben, moi, juste Marois Risky et Éric Duhaime contre le gauche, je... je paierais peut-être pour voir ça.
Ça va devenir un bon show.
Merci, Victor.
Allez, merci, Pascal. Merci, Annick.
Bye-bye, merci.
À la prochaine. Bye-bye. Victor Henriquez, qui est analyste politique. C'est rare qu'on parle de politique pendant l'été, mais avec Arthabasca, on n'a pas le choix d'en parler.
Mais avec la déboutade complète, la boutade complète de la CAQ. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un parti désagrégé comme
je pense
ça.
Encore.
Ben, c'est ma perception.
Je pense encore qu'il va partir au mois de décembre, qu'il va annoncer qu'il se retire. Il y a des analystes qui pensent ça aussi. Est-ce que ça pourrait peut-être être au mois de janvier? Moi, je pense que plutôt il va le faire. Plutôt, on va se lancer dans une course pour la succession de François Legault. Mais actuellement, c'est une catastrophe.
Je suis d'accord avec toi qu'il faudrait qu'il le fasse. Je suis pas convaincu encore qu'il va le faire.
Midi 54, on s'arrête. Vous avez des choses à nous mentionner. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Merci d'être bien branché sur Boulevard 102. Boulevard 102. Dans les prochaines minutes, j'aurai des billets pour les capitales de Québec.
Oh.
C'est quoi ce visage-là que tu viens de me faire? J'ai-tu dit quoi? J'ai-tu dit niaiserie?
Est-ce que tu veux la vérité? Veux-tu que je le dise en ondes?
Vas-y!
J'ai espéré, parce que j'ai vu ce que tu avais ouvert sur ta page d'ordinateur.
Ouais.
Puis je t'ai fait des yeux du genre, rouvre les sujets que je t'ai envoyés pour la chronique.
Ben, je le sais. On va parler de Donald Trump.
Oui, mais je t'ai envoyé des points.
Le méchant Donald Trump, le gros orange, l'autre bord.
Avec les points sont dans notre conversation du midi. Mais tout ça pour dire, les capitales de Québec, parce qu'on a une soirée fun qui s'en vient.
Oui. Voilà, donc restez à l'écoute, j'aurai des billets pour vous dans les prochaines secondes. Bon, je vais essayer de regarder, voir de quel sujet on pourrait jaser avec l'exceptionnelle Valérie Beaudoin, qui est analyste politique américaine, qui est en congé présentement, donc ça nous fait plaisir de l'appeler pendant qu'elle est sur le bord de la plage, en train de prendre son mojito.
Est-ce que j'abuse d'elle, tu penses?
Salut Valérie!
Allô?
Ouais. T'as-tu autant d'énergie que Donald Trump, toi? Ce gars-là, du matin jusqu'au soir, et incluant la nuit, il est toujours en train de travailler et mettre tout le monde sur le bout de leur chaise.
Oui, ben écoute, je pense qu'il m'en fait dépenser autant d'énergie, par exemple, à beaucoup de gens, surtout des politiciens canadiens, là, je te dirais par les temps qui courent. Mais malheureusement, j'aimerais vous dire que je suis sur une plage avec un mojito. Mais non, c'est assez tranquille, les journées de congé.
C'est assez tranquille. Bon, tu te reposes. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Canada, au même titre que la Chine, on réussit pas à s'entendre avec Donald Trump?
Non, on n'a pas tout le fin détail des négociations, hein, parce qu'on sait qu'il y a des négociations qu'on peut voir dans les médias, ce que Donald Trump va écrire sur Truth Social, comme tu disais, un peu n'importe quand, et travaille même la nuit. On a ce que le gouvernement canadien va nous dire ici. Bon, la Chine, on a très, très peu d'informations, on s'entend, mais c'est pas le même type de régime. Mais ce qu'on sait ici, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choses qu'on veut inclure dans l'entente. Si on se souvient, on veut vraiment qu'il y ait des éléments pour la défense, le fameux dôme doré. Il y a des éléments aussi... Bon, la frontière, là, il revient toujours sur la crise du fentanyl, mais qu'on sait que statistiquement, c'est vraiment pas la frontière canado-américaine où il y a un gros problème. Alors, qu'est-ce qui bloque?